C'est bien.
C'est bien, et ouais, il prend de loin. Bon, super.
Oui, oui. donc il ne faut pas faire...
attention,
c'est juste pour...
D'accord. Oui, oui, oui.
Après, écouter, et après on fait un...
D'accord.
je crois que pour moi, ce serait utile si vous faites un peu le parcours, parce que j'ai pas encore vu une pièce. Donc
bien sûr.
J'ai lu des choses, mais oui.
Bien sûr.
C'est toujours un peu...
Absolument.
Oui. Oui, oui.
Bonjour, alors une crème de potimarron, s'il vous plaît.
Deux,
voilà. Et puis un thé vert.
De l'eau pétillante.
Et voilà.
Châtel-Beau.
Oui. Ça ira très bien. Alors, le parcours. Donc la base, je dirais, du travail, c'est vraiment un travail sur... d'abord sur le poids, je pense, le poids du corps, qui venait vraiment de mon expérience d'interprète avec Odile Duboc.
Avec
Odile Duboc, qui est une chorégraphe française qui est décédée il y a 2 ans, mais avec qui j'ai travaillé longtemps. Et en tout cas, pas régulièrement, mais sur beaucoup d'années, voilà. Et en fait, quand j'ai commencé mon travail, je travaillais avec elle, donc elle m'a beaucoup apporté. Et notamment, c'est la façon dont elle utilise le poids du corps, dont elle utilisait le poids du corps, qui m'a beaucoup aidé à poser des fondamentaux dans mon travail. Dans le sens où c'était vraiment pour elle, ce que je ressentais dans mon corps, c'est une coulée du poids très verticale. Comme si la coulée du poids du corps se faisait, enfin coulait sous la terre, et ensuite du coup une information qui venait du sol et qui remettait du coup le corps en mouvement. Et donc c'est cette descente verticale et puis cette attente de l'information qui, comme un feedback qui revient du sol, fait qu'il y avait, enfin en tout cas dans mon ressenti, toujours une petite seconde de décalage entre le fait de ressentir ce poids et puis de se mettre en mouvement. Et puis sinon, j'ai toujours été très attirée par le travail respiratoire, mais les dispositifs de la danse contemporaine ne m'ont jamais satisfait à ce niveau-là. Et du coup, je me suis inscrite en même temps que je travaillais chez Odile à l'école française de yoga, où j'ai commencé à... Là, j'ai été complètement, d'une part, très impressionnée sur comment, effectivement, le travail respiratoire pouvait être très, 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 très précis. Et voilà. Et puis, d'autre part, j'étais aussi très impressionnée de comment, dans cette école, en tout cas de yoga, tout le but était, effectivement, ce rapprochement entre corps et esprit. Et que finalement, dans un travail de corps, la philosophie est toujours présente à l'intérieur d'une école. Ayant fait mes études et au conservatoire à Angers, et ensuite beaucoup de stages au TCD, etc., c'est vrai que, en tout cas à mon époque, devenir danseur, c'était surtout travailler son corps, et c'était peu penser finalement. Et du coup, cette idée de rapprochement entre corps et esprit, ou en tout cas cette idée de dialogue constant entre les deux, tout de suite ça m'a beaucoup séduit et vraiment beaucoup plu. Et du coup, c'est devenu aussi un axe de travail très très important que j'ai ensuite développé à ma façon.
Et ça veut dire quoi pour la pensée, l'esprit?
Alors aujourd'hui, ça veut dire que je ne peux pas concevoir d'une part le corps d'un côté et la pensée de l'autre, voilà, que forcément les deux dialoguent en permanence, et que surtout, en fait, ce qui m'a paru intéressant dans ces techniques, en tout cas telles que je les comprends aujourd'hui, c'est que l'appareillage de la perception et de toute façon celui du mental. C'est-à-dire que mental et perception ne font qu'un seul, ne sont qu'un seul, qu'une seule chose. Après, c'est intéressant de faire quand même un travail de discernement de toutes les notions et de toutes les...
De discernement.
En fait, même si les choses ne sont qu'une chose, essayez à l'intérieur de discerner, effectivement, qu'est-ce qui est de l'ordre du mental, qu'est-ce qui est de l'ordre de la perception, qu'est-ce qui est de l'ordre du corps, etc. Même si ça ne fait qu'une unité, je pense que le travail de discernement et d'analyse est de toute façon inéluctable. Et même très structurant, très à la base de la créativité, et inéluctable. Voilà. Donc, pour en revenir après au développement des choses, donc assez vite, en faisant l'école française de yoga, j'ai compris qu'il y avait pour eux en gros deux façons de respirer. Il y a ce qu'ils appellent la manière de respirer, qui est tout ce qui est de l'ordre de la technique, des outils respiratoires, des techniques respiratoires qui vont jouer et amplifier la respiration physique. Ça, c'est une chose. C'est une chose qui apporte tout simplement du bien-être. Voilà. Et puis d'autre part, il y a, donc ça c'est ce qu'ils appellent le pranayama. Et puis d'autre part, il y a le pranayama, qui est autre chose, qui est l'art de respirer. Donc qui à un moment donné, une façon, toutes les techniques respiratoires, qui sont effectivement des outils, vont nous faire basculer en fait dans un état où ce n'est plus uniquement les poumons qui vont s'oxygéner, mais où c'est les pores de la peau également qui vont inspirer et expirer, et où c'est tout le corps en fait qui va inspirer et expirer. On va se retrouver dans ce qu'ils appellent une respiration osmotique, c'est-à-dire une respiration où tous les pores de la peau sont interpellés. Donc aujourd'hui par exemple, je sais que Kitsou Dubois, avec qui est une chorégraphe française, Kitsou Dubois, donc qui est une chorégraphe française, travaille aujourd'hui beaucoup en piscine, dans l'eau, et les danseurs restent très longtemps sous l'eau, avec cette capacité effectivement d'inspirer et d'expirer vraiment par la peau. Donc c'est exactement ce qui se passe dans les techniques de yoga. À un moment donné, on bascule, et cette bascule, ils appellent ça, on tombe du coup dans l'art de respirer, qui est décrit comme la respiration sur le fil du souffle. On ne sait même plus si on inspire ou si on expire. Là, on respire de façon ténue et continue, et par tous les pores de la peau, et de façon très subtile. Et j'ai eu la chance de pouvoir sentir ça très vite dans mes études de yoga. Et du coup, je pense que j'ai développé tout mon travail à partir de ce pranayama, c'est-à-dire cet art de respirer, qui fait qu'on va vers l'air, avec autant de délicatesse que l'air entre en nous. Il y a une sorte de dialogue avec l'air qui fait que on peut plus physiquement couper l'air, mais on devient extrêmement tactile, on devient extrêmement poreux à l'air. Et du coup, je pense que le travail, en plus d'avoir les pieds sur terre et d'avoir un ancrage, un questionnement sur la gravité qui vient de chez Odile Dubois, a en plus incorporé le fait de travailler avec l'air et je dirais avec la pression atmosphérique. Donc de vraiment s'appuyer, de chercher tous les moments où on va s'appuyer sur l'air, où en fait on est dans des moments d'équilibre où toutes les forces s'annulent, toutes les forces en présence s'annulent. On cherche une espèce de point zéro dans toutes les articulations et on a vraiment cette sensation d'être porté en fait, complètement par l'air. Donc je pense que ça, c'est vraiment les bases du travail corporel. À cela, c'est additionné au fil du temps et au fil de mes connaissances dirais, des... Oui, il y a tout un art du mental et de la perception qui est développé surtout dans le yoga tibétain que j'ai choisi finalement de, d'étudier, qui est le yoga de l'énergie. Et donc, où là, on va après discerner, surtout, une fois qu'on a, on a mis cette respiration sur le fil du souffle en place, on va aller discerner différentes qualités de vibration, différentes fréquences de vibration, je dirais différents taux de vibration. Et ces différents taux, pour eux, vont être associés soit au corps physique, soit au corps énergétique, soit au corps du mental. Voilà, donc il différencie plusieurs corps. Il y a d'autres corps, mais que pour l'instant je n'ai pas encore étudié suffisamment. Mais en tout cas, ces trois corps-là, je joue beaucoup dans les chorégraphies avec. Et donc c'est pour ça que dans Glossolani, déjà, on trouve toute une partition dirigée sur les focales de la pensée qui voyagent dans le corps, ou sur des points très précis, etc. Voilà. Donc sinon, pour le développement du travail, je dirais après Glossolali, en tout cas pour moi c'est la même lignée, c'est vrai qu'en travaillant, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller de plus en plus vers des choses physiques tout en gardant le même état. Et du coup, dans les dernières créations, il y a quand même beaucoup de physicalité, une certaine, je dirais, virtuosité de la part des danseurs. C'est pas une virtuosité qui se voit énormément, hein, évidemment, mais il y a quand même des prises de risque, d'équilibre, de jambes qui se lèvent, d'appui sur les bras qui sont pas forcément, enfin, quand on n'a pas trouvé en fait le vide articulaire et qu'on n'a pas trouvé ce contact et cette présence avec l'air, c'est très difficile physiquement à faire. Par contre, quand on l'a trouvé, c'est évident, mais ça demande du temps. Voilà. Donc, ils sont des choses peut-être plus délicates à danser, je dirais, aujourd'hui pour les interprètes, qui demandent une certaine virtuosité, certainement. Voilà. Donc, effectivement, le travail, c'est plutôt dirigé de ce côté-là. Et puis aussi parce que, en fait, tout le travail des appuis avec cette qualité, tout le travail de l'équilibre avec cette qualité, le travail de l'inversion, c'est aussi des situations finalement de corps qui pourraient aussi être des situations de la vie quotidienne. C'est-à-dire comment savoir se retourner, comment savoir s'inverser, comment savoir rester en équilibre, comment savoir rester en relation. Tout ça, c'est aussi, je trouve, un travail super important. Sachant que ce qui est aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que contrairement à certaines formes de yoga, l'idée là, c'est vraiment de rester en relation avec le monde et de participer au quotidien, voilà, dans la philosophie. Donc ça, c'est important de le mentionner, je crois. Voilà. Oui.
Je peux demander ou...
Absolument.
Vous êtes dans une...
Non.
Si vous décrivez cet art aussi comme quelque chose de tous les jours.
Oui.
Où est-ce que ça vient, la chorégraphie ou la danse ou...
Ah, ça, c'est une bonne question.
J'ai lu aussi que vous avez une description de la chorégraphie. Oui, c'est toujours un méta-mouvement ou un...
Oui, enfin, alors méta-mouvement, je ne sais pas.
Une méta-danse
ou une méta-danse. Je sais, enfin, en mots simples, ça ferait quoi? Je sais pas.
Non, mais c'est sur votre site.
Ah, c'est vrai. Ah oui, il y a peut-être un article, mais c'est pas moi qui l'ai écrit.
Ah, ok,
hein.
Oui. Ok. Non, juste la question alors.
D'où vient la danse, quoi? Alors, oui, c'est quoi cette différence entre danse et quotidien?
Oui, où est-ce que cette pratique de.
Oui. Bah, déjà, la danse, c'est vrai qu'elle est. elle est au quotidien, dans l'art de se prolonger dans l'autre ou dans l'espace, mm-hmm. de façon, je dirais, avec un espace dynamique, un espace... alors, contrairement à des formes de d'arts martiaux ou de yoga, dont le but est vraiment le retrait du monde et l'aller dans un ailleurs où le temps s'efface, mm-hmm. y a, en fait, en Laban, enfin, exactement, en l'effort chez Laban, on dirait qu'il n'y a plus de temps. Là, il ne s'agit pas de ça du tout, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de mesurer le temps et de mesurer l'espace avec la perception. Mm-hmm. Même si, effectivement, il y a un ralenti qui est extrême, il y a quand même des qualités de, par exemple, de flux libre dans l'immobilité, il y a des qualités de soudaineté sans que ça se voit, mais il y a tout, en fait, tous ces registres existent à l'intérieur de la personne qui traverse cette danse. Et donc, je dirais que c'est vraiment aussi une façon d'être au quotidien, c'est cette danse qui propose un espace dynamique. Enfin, pour moi, la danse, mm-hmm. c'est vraiment, je reprendrai les mots de Laban, c'est vraiment un espace qui nous met. Enfin, même le corps chez Laban, en fait, je trouve ça génial, est vu comme un espace dynamique. C'est-à-dire que tous les signes des parties du corps vont être compris et interprétés comme des espaces dynamiques. Donc, dès qu'on écrit un signe, c'est un passage, c'est un espace dynamique. Mm-hmm. C'est pas quelque chose d'arrêté. Et ça, je trouve que dire que la danse est un espace dynamique, c'est vraiment, c'est effectivement la figure de Shiva dans le yoga, c'est-à-dire que c'est celui qui, quoi qu'il arrive, sans se poser, sans préjugés ou sans morale, se permet tout, mm-hmm. parce qu'il est dans le dynamisme, et que finalement, la seule chose à éviter pour quelqu'un qui croit en la philosophie de la danse, c'est tout ce qui est de l'ordre du blocage. Et c'est tout. Et après, tout est possible. Mm-hmm. Voilà, donc la danse au quotidien, ce serait l'harmonisation, je dirais, de tous ces possibles, mm-hmm. sans préjugés. Et là, on rejoint effectivement, tous les gens qui m'ont marqué dans leur atelier, comme Steve Paxton, comme Simone Forti, comme Lisa Nelson, qui n'ont pas arrêté de nous dire de mettre nos préjugés de côté en venant dans leur atelier, par exemple. Voilà, et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort en danse. Et voilà, cette espèce d'espace dynamique où tout est possible, je le mettrais presque comme une définition de la danse. Et en fait, du coup, ce qui fait qu'à un moment donné, on choisisse d'en faire quelque chose qui soit de l'ordre du spectacle vivant, alors ça, c'est c'est presque pas très important, mais mm-hmm. je dirais, mais on va dire que ça a son importance quelque part, parce que c'est quand même un moment où on choisit, en tout cas dans mon travail, où je choisis quand même de convier un public à un moment spécifique où finalement je vais ritualiser quelque chose, mm-hmm. J'essaye de vivre le plus possible dans mon espace quotidien, mais que là je vais ritualiser en le donnant de façon spéciale, oui. Donnant quelque chose de spécial. Donc cette chose de spéciale, après, elle va se traduire selon les chorégraphes, je pense, de façon très différente. Effectivement, certains vont beaucoup plus coller au quotidien. Personnellement, je crois que je colle de moins en moins au quotidien. C'est-à-dire que l'espace du théâtre m'appelle à vraiment composer les choses, donner une certaine préciosité, quelque chose d'assez ornemental, quelque chose d'assez spectaculaire dans le non-spectaculaire, mm-hmm. Et une certaine virtuosité, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est des choix. Mm-hmm. Je ne ferai peut-être pas toujours ces choix-là, mais c'est les choix du moment, en tout cas.
Ouais. Voilà. Et est-ce que le travail avec les soins est aussi utilisé dans les deux, dans le quotidien et dans le...
Alors, ça, c'est une bonne question, parce que j'espère que le travail avec les scores pourra devenir de plus en plus une pratique quotidienne. Mais c'est vrai que dans mon... Enfin, j'ai une exigence par rapport à ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un langage qui a été développé depuis le début du XXe siècle, qui est la notation d'abord, et que c'est un langage qu'une large communauté de danseurs contemporains a développé, et que la moindre des choses, c'est d'essayer de le comprendre et de l'apprendre. Donc, en même temps, je fais plein de choses à côté, mais en même temps, je fais cet effort d'essayer de l'apprendre, et le temps qu'il s'intègre dans ma vie quotidienne, je pense que de plus en plus, il s'intègre, mais il n'est pas encore complètement intégré. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il est fondé sur la diversité et la variété. Et que même si, dans mon travail, j'ai évacué certains paramètres pour styliser les choses, ce qui, à mon avis, est un travail d'auteur, et ce qui est absolument normal pour un auteur, je trouve que dans la vie quotidienne, tous les paramètres pour un équilibre, pour l'équilibre de ma personne, doivent être intégrés et compris. Ce qui n'est pas encore le cas, mais j'y travaille. Je dirais que je suis dans la vie quotidienne, je suis en travail et j'essaye effectivement d'apprendre chaque jour plus sur la notation d'avant et sur surtout l'incorporation et ce que ça veut dire dans le corps. Voilà.
Oui, moi je ne savais pas beaucoup, je ne sais pas beaucoup sur la notation l'avant. Mm-hmm. J'ai toujours cru que c'était une, comme la musique, une notation de quelque chose qui existe. Mais donc c'est aussi une analyse.
Si c'est comme la musique, c'est surtout une analyse. Si c'est comme la musique, d'une part, et ça l'est, la musique, le langage, enfin, l'écriture musicale sert à créer, puisque les compositeurs créent a priori sans écouter ce qu'ils font, enfin, ils l'écoutent dans leur tête. Mm-hmm. Et pour, à ma façon, l'utiliser, parce que j'ai changé des choses, mais en tout cas, j'essaye de la comprendre et de l'utiliser. Par contre, dans mon travail de partition aujourd'hui, de plus en plus, enfin, depuis 2000, j'ai vraiment, depuis 2000, j'utilise les signes là-bas, même si je les ai un petit peu changés parce qu'on les lit en temps réel d'une part, et parce que parfois la façon dont j'ai imaginé l'espace ne correspond pas aux signes de là-bas. Mais n'empêche que là-bas reste très pragmatique et très juste dans sa vision, très concrète dans sa vision de l'espace. Donc c'est pas une remise en question de l'espace chez Laban, c'est juste une création d'espace imaginaire qui a fait que j'ai dû développer des signes. Mm-hmm. Et c'est tout. Et sinon, ça reste quand même assez proche de Laban. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est absolument possible, à partir d'un outil qui propose surtout l'analyse de ce qui se passe dans le corps avant de tomber dans le symbole, parce qu'ils sont partis de là au départ. C'est d'abord ce qui se passe dans le corps. C'est d'abord cet espace dynamique, finalement, qui est l'objet de l'analyse chez Laban. Il faut savoir qu'il a mis près de 20 ans avant de publier son premier livre, même 30 ans, je crois, avant de publier son premier livre. C'est bien qu'il fallait passer par le corps, oui, avant de donner des signes. Donc, une fois qu'on a mis, effectivement, voilà, un signe sur une notion qui est à vivre, il est évident qu'on peut composer à partir de cette notion quand on l'a intégrée corporellement. Et quand on l'a incorporée corporellement, on n'est pas forcément obligé pour la composer, et pour la composer avec d'autres notions, de repasser par la phase d'atelier, puisqu'on a une mémoire corporelle, on a un vécu, et on a un appareil sensitif et perceptif qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a emmagasiné une chose et qu'on l'a vécu, on a ce pouvoir de subodorer de combinaisons, comme en cuisine, ou comme en écrivant un poème, par exemple. C'est exactement la même chose. Donc du coup, là, je dirais que la notation Laban a ce pouvoir, effectivement, d'être plus qu'une notation pour l'archivage, mais aussi d'être une écriture pour la composition chorégraphique. C'est évident. C'est évident. Certes, il y a des ouvertures à créer, parce que c'est un système qui, d'une part, n'arrête pas de se développer. Par exemple, en France, il y a plusieurs choses dans la notation Laban. Il y a la notation Laban, il y a le système, la cinétographie développée par Knust, Albrecht Knust. Il y a ensuite l'effort, la théorie de l'effort chez Laban, qui travaille avec les notions de qualité du mouvement. Et il y a la SMD, qui est la symbolisation du mouvement dansé, qui a été développée par Anne Hutchinson Guest pour l'improvisation. Donc en ce moment en France, il y a Angela Loureiro et Jacqueline Chaleas, ainsi que Noël Simonet, qui essayent de regrouper les trois systèmes de façon à ce que, aujourd'hui, puisqu'elles ont de plus en plus de chorégraphes qui arrivent au conservatoire pour apprendre la notation à des fins de composition, et du coup, réunir les trois systèmes pour en écrire sur une portée, sur une partition, pour pouvoir écrire et jouer les trois systèmes, c'est-à-dire aussi écrire des partitions ouvertes. Effectivement, par contre, c'est une voie d'exigence quand on commence les partitions, mais ça, je pense que tout chorégraphe est exigeant, parce qu'effectivement, c'est de s'imprégner aussi d'une histoire de la danse qui est là depuis le début du XXe siècle et se donner un minimum de moyens et se rendre un minimum disponible pour essayer de comprendre tous les jeux et tous les enjeux de chaque notion.
Encore une fois, les trois systèmes pour...
Alors, c'est l'effort chez Laban, la théorie de l'effort chez Laban, qui travaille vraiment sur les qualités de mouvement. En fait, c'est une combinaison, je vais vraiment simplifier, c'est une combinaison entre le poids, qui peut être léger ou fort, entre le flux, qui peut être libre ou plus contrôlé, entre l'espace, qui peut être direct ou indirect, et une donnée de temps qui peut être, le temps peut être continu ou soudain. Voilà. Et c'est les combinaisons de ces différents facteurs, qui sont des facteurs de mouvement qu'on peut comprendre et qui ne sont pas évidents à comprendre, c'est assez raffiné, qui, en fait, la combinaison de ces différents facteurs qui vont donner une qualité spécifique, soit en notant l'un des facteurs, soit en donnant une valeur à l'un des facteurs, ou à tous les facteurs.
Okay.
Voilà. Donc c'est assez riche.
Mais ça, c'est une des systèmes ou...
Ça, c'est un des systèmes, seulement. Alors ensuite, le deuxième système, c'est la cinétographie Laban, ou la Laban notation, qui est une notation qui s'est développée, qui s'est développée par Laban et par toute la communauté de danseurs qui était autour de lui, et qui, pendant les années de 40 à 45, s'est développée, enfin, c'est Albrecht Knust qui l'a développée, et qui est un système qui permet de noter absolument tout, je dirais tout mouvement, tout espace corporel, sachant que tout est vu comme un espace dynamique, comme un passage, et que ça permet une notation dans le temps qui est quand même assez occidentale, avec une succession dans le temps, c'est-à-dire où tout élément numéro 1 sera déduit de l'élément 0 qui le précède. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est effectivement le problème que j'ai eu. Et par exemple, dans les partitions aujourd'hui que j'écris, je propose une autre partition de la portée, une autre organisation de la portée, me permettant de ne pas forcément déduire un mouvement d'un autre. C'est juste une autre organisation de la portée qui fait que je laisse, par exemple, à la danseuse le choix d'organiser son temps avec plusieurs éléments. Voilà. Mm-hmm. Donc après, c'est juste, il faut le comprendre, et d'ailleurs, en ce sens, je reste assez proche du système. C'est souvent l'organisation de la portée qui va donner aussi le « là », je dirais, de la partition. Donc ça, finalement, c'est déjà présent dans la cinétographie d'avant. C'est la créativité de chacun qui va ensuite organiser les choses différemment. Mm-hmm. Donc c'est possible déjà.
Oui.
Donc ça, bon, ça permet effectivement de détailler le mouvement, mais de façon vraiment très subtile. C'est-à-dire que même un mouvement respiratoire, on va pouvoir le détailler comme en yoga. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de respiration basse, moyenne, haute, par la narine droite, par la narine gauche. Enfin, tous les mouvements physiques de la respiration, on peut les écrire déjà. Mm-hmm. Tous les espaces du corps, puisqu'il est vu comme un espace dynamique, on peut les écrire. Il suffit de par exemple, si on est assez créatif, d'inventer, en fait, parce que toute la partition chez Laban, chaque colonne correspond à une colonne de corps. Donc si, par exemple, je veux faire danser le mental en tant que partie du corps, j'ai qu'à inventer une colonne pour le mental.
Ah oui.
Et finalement, ça sera ma colonne du mental. Voilà. Donc, oui. C'est comment, après, on s'octroie de jouer avec les principes là-bas. Quoi. Voilà. C'est vrai que je me permets beaucoup de choses. Ensuite, la troisième chose, c'est la SMD, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France la symbolisation du mouvement dansé. Je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, c'est Anne Hutchinson Guest, en fait, qui l'a développé. En France, c'est vraiment Jacqueline Chaléas qui est en train de tout traduire et de vraiment se pencher sur chaque notion. C'est un système que Anne Hutchinson a développé pour noter finalement l'improvisation. Et ce qu'elle a fait, c'est un travail étymologique par rapport à la cinétographie Laban, c'est-à-dire c'était venir à l'origine du signe pour exprimer une notion. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, par exemple, pour un signe de rotation, que ça soit forcément dans la cinétographie Laban, on va dire que c'est rotation à droite ou rotation à gauche, puis on va nommer si c'est un huitième ou un quart de tour, etc. Mm-hmm. Anne Hutchinson Guest, elle prend le signe étymologique de la rotation, elle dit voilà, jouer avec la rotation, comme une notion.
Oui.
Voilà. Jouer avec le tour. Voilà, oui. C'est une notion, ça devient une notion. Jouer avec un déplacement. Jouer avec un déplacement courbe, jouer avec un déplacement direct, voilà, tout ça, ça va nourrir finalement des dispositifs d'improvisation. Mais de façon précise, et alors ce qui est joli, c'est qu'on peut être précis dans l'imprécision, on peut être précis dans l'ouverture que l'on donne à la personne. Donc c'est vraiment un dispositif qui amène du coup à entrevoir tout ce que font les musiciens depuis quelques temps, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les compositions par contrainte ou par règle. Alors ça n'a rien à voir avec les contraintes comme on pourrait les trouver dans les indications ou dans les tasks. Mm-hmm. Rien à voir, enfin c'est pas du tout du genre je monte sur une table uniquement quand j'ai un chapeau sur la tête, c'est pas ça du tout. Mm-hmm. Mais c'est vraiment aller, je dirais, à l'atome de la danse. C'est-à-dire oui. Jouer avec les éléments qui sont les atomes de la danse, hein, c'est-à-dire les grandes notions qui fondent le mouvement.
Oui.
Que ce soit en termes de qualité, si après on marie les trois, ou que ce soit en termes de mouvement plus physique. Oui. Donc c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, avec ces trois choses, que je suis en train d'élaborer tout le langage.
Oui,
c'est sûr.
Votre travail, est...
oui.
ça fait une combinaison.
De... Oui, 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 ouais. Complètement. Mm-hmm.
Mais dans les trois systèmes, il n'y a pas le notion de... C'est pas, le seul but n'est pas de transmettre quelque chose. Par exemple, Thierry Demey m'a expliqué de son but, il développe des musiques de gestes, mm-hmm. Et son but de inventer un système de notation, mm-hmm. C'est pour le transmettre à des autres.
Absolument. Ça c'est super important. Enfin, je crois que l'endroit de la partition, il y a plusieurs enjeux. Donc d'une part, je vois il y a un enjeu d'analyse, c'est-à-dire de passer par l'analyse d'une notion. C'est-à-dire l'analyse permet vraiment l'intégration profonde et je pense aussi le retournement, la remise en question totale. Mm-hmm. Donc, à partir de cette analyse, du coup, et de ce retournement qu'elle produit, du coup, la partition va être aussi un endroit de créativité. Mm-hmm. Où il est possible pour un auteur d'agir seul, ou à un moment donné, effectivement, il est possible de donner cet endroit partitionnel à une communauté de danseurs ou de chercheurs, peu importe, ou de musiciens, peu importe, pour qu'il y ait réflexion sur l'objet.
Oui.
C'est-à-dire, la partition permet la mise à distance. Donc, à nouveau, cette mise à distance va aussi permettre l'analyse, mais pas uniquement par soi-même, mais par la communauté, et va reproduire encore une nouvelle phase de créativité. Donc, ça peut être vu comme aussi, du coup, comme un protocole d'exploration. Et puis, quand admettons que la partition est finalisée, effectivement, le but, c'est après de communiquer un certain nombre d'informations de façon claire, et en plus, de faire en sorte que ces informations de façon claire puissent être discutées, remises en question, parce qu'il y a toujours cette distance de l'objet,
oui.
Et du coup, de refaire des rectifications en fonction de choses très concrètes qu'ont à vivre les danseurs. Voilà. Parce que c'est en général l'épreuve du feu, quoi, quelque chose qui va devenir très pragmatique pour eux. Bah, du coup, bah non, on ne peut pas l'écrire comme ça, parce que là, voilà. Donc du coup, il y a des preuves de quelque chose de très concret. Donc c'est juste, voilà, c'est vrai que ça va permettre de mettre les choses en travail avec une distanciation. Et cette distance qui est faite d'analyse, qui est faite de dialogue, je dirais, c'est vraiment un endroit de créativité qui est énorme. Donc c'est aussi, en fait, dans l'écriture qu'on va trouver la créativité.
Oui. Si on retourne à Glossolali,
oui.
Tu m'as dit que c'était comme un départ de quelque chose.
Vous, ah, vous pouvez absolument
faire une description de ce qu'est-ce, oui, qu'ils.
En fait, aujourd'hui, ce que je pense de Glossolali, c'est que c'est vraiment le projet, beaucoup plus que Wo et Berengelite que j'ai chorégraphié avant, c'est vraiment le projet qui m'a permis de rentrer dans vraiment un protocole d'exploration entre ce que je pouvais concevoir et ce que je vivais, ce que je percevais, et qui m'a aidé, du coup, enfin, toute cette exploration m'a aidé vraiment à connaître mes préférences. Voilà, donc m'a aidé ensuite à assumer des choix artistiques. Donc c'est énorme. Parce que, en fait, en passant par l'informatique, en numérotant comme j'ai numéroté, petit A2, etc., toutes les postures qu'avait fournies Jérôme, j'ai d'abord fait, comme je l'explique, des combinaisons, toutes les combinaisons possibles, puis des tirages aléatoires d'agglomération, en fait, de corrélation de ces combinaisons. Puis ensuite, je les ai vraiment déchiffrées dans le corps, et il y en avait que je n'aimais pas du tout. Mm-hmm. C'était hyper laborieux, par contre, comme processus. C'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Mais du coup, ça m'a vraiment appris, de façon méthodique, à savoir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. C'est énorme. Et du coup, grâce, je dirais, à Glossolali, j'ai pu connaître mes préférences. Et au fur et à mesure, bon, il a fallu encore quelques créations avec les logiciels, hein, mais au fur et à mesure, me détacher des logiciels, finalement, pour aller directement vers mes préférences, parce que à force de les essayer, en protocole d'exploration, voilà, je les connaissais, du coup.
Oui, les logiciels, ça veut dire...
Les logiciels, en fait, c'est... Pour Glossolali, c'est Patchwork, qui m'a aidé à faire les combinatoires et les tirages aléatoires. Donc, c'est Patchwork. Et ensuite, pour les autres chorégraphies, on a avec Frédéric Voisin, on a inventé un logiciel qui me permet de rentrer directement les notions de danse à partir du langage Laban, ce qui était plus facile pour moi, beaucoup moins laborieux, parce qu'il n'y avait pas de retraduction. J'avais directement le mot et la notion de danse qui correspondait, l'atome, l'élément dansé, le facteur qui correspondait. Donc c'était beaucoup plus simple. Et donc c'est un logiciel qui s'appelait LOL, et que Frédéric Voisin a développé, et dont je me suis servie jusqu'en 2001-2002. Non, même un peu plus, jusqu'en 2004, encore pour contraindre, je crois. Voilà. Donc ça, c'est aussi un logiciel qui m'a beaucoup formée, parce qu'il m'a... En fait, le dialogue avec la machine m'a aidée. Et ce dialogue avec la machine, il a commencé avec Glossolali. Voilà. La première fois que je dialoguais avec une machine qui me renvoyait en fait des propositions tout simplement pour me dire oui mais t'as pensé à ça, voilà. Parce que la machine elle est oui elle donne toutes les solutions, c'est ça qui est génial. Ouais. Elle n'en oublie aucune.
Mais alors,
donc c'est pas mal parce que du coup dans la diversité on se dit ah bah alors t'as pensé à ça, ça fait quoi, ah bah non ça me plaît pas, enfin voilà. Mm-hmm. Ce qui est quand même pas mal pour apprendre à se connaître. Ben, je le vois comme ça aujourd'hui.
Oui, mais c'est juste pour essayer de comprendre, parce que je ne sais pas si je comprends le mot de logiciel. Ça, c'est le
système, logiciel. Le logiciel, c'est un software.
Ah oui.
Voilà, c'est plus clair comme ça.
Ça, c'est le software. Okay.
C'est le software.
Qui génère,
en fait... Dans lequel, alors un software, c'est toujours, c'est un dispositif informatique où je vais rentrer des données.
Oui.
Et ensuite, il va avoir des opérations, des calculs que je vais aussi décider. Et ensuite, lui, il va me donner avec ces calculs-là et ces données-là toutes les solutions possibles.
Oui.
Voilà.
Et donc, ce que vous avez
mis
dedans,
oui.
ce sont les E, ça veut dire
oui,
O,
voilà, alors O, O1, O2, O3, enfin voilà, c'est tous ces trucs-là, toutes les combinaisons. Et après, en fait, du coup, comme il m'a redonné qu'en termes de O, de E, etc., moi j'avais mon cahier et je devais tout retraduire.
Uh-huh.
Et c'est pour ça qu'après on a inventé un autre logiciel avec Frédéric Voisin qui faisait que je n'avais pas à tout retraduire à la main.
Donc, le score que j'ai vu de Glossolali, les combinaisons de O6,
ouais,
ça
ouais.
C'est généré par l'ordinateur. Et puis, vous avez décrit, ça veut dire...
Oui, ça veut dire, cas. Voilà.
Et qu'est-ce qui est... Donc, je m'imagine que ce travail, vous l'avez fait avant de... J'ai lu que vous avez travaillé 3 jours sur...
Oui.
Avec Jérôme.
Avec Jérôme.
Donc le travail, ça c'est le travail qui a fait
oui.
avant.
Oui, ça c'est le travail qui avait fait 3 jours avec Jérôme, c'est le travail qui avait été fait avant. Parce qu'à l'époque, ce qui n'est pas le cas maintenant, mais parce qu'à l'époque j'avais besoin quand même, d'une façon, enfin comme ça se passe en danse, de matière venant de l'interprète. Donc je lui avais posé un certain nombre de questions auxquelles il avait répondu corporellement. Et chaque réponse corporelle ou réponse mentale, hein, parce qu'on a joué sur beaucoup de paramètres, je les ai inscrites sur un cahier que je pourrais vous montrer parce qu'il a à la maison. Je les ai inscrites et décrites sur un cahier en les nommant. Ça, c'est O1, ça, c'est O2, ça, c'est respiration numéro 1, ça, c'est circulation de la pensée numéro 1, ça, c'est posture numéro 2. Mm-hmm. Enfin, voilà, donc, tout est décrit sur le cahier. Ensuite, avec l'ordinateur, j'ai travaillé qu'avec F, O, etc. Et ensuite, avec mon cahier, j'ai tout retraduit. Donc ce pourquoi j'avais ensuite besoin d'inventer un logiciel avec Frédéric Voisin qui me permettait de faire tout en un. Pas retraduire, hein, parce que c'est...
Oui. Et voilà. Qu'est-ce qui est... Là, j'ai lu que juste avant le spectacle, l'ordre de... est décidé. Donc...
Ah oui, c'est ça. Pour Glossolali, c'était ça. C'est ça, je me souviens plus de ça. Est-ce que l'ordre est décidé, c'est ça, juste avant le spectacle. Ah, est-ce que c'est l'interprète qui choisit ou est-ce que c'est moi je choisis
c'est...
Je sais pas. Je sais plus.
Peut-être que c'est l'interprète qui choisit. Mais c'est pas donné d'avance,
ouais. Alors je sais plus si on tirait au sort, si l'interprète choisissait ou si c'est moi qui choisissais. Honnêtement, ouais. J'ai essayé de relire la partition pour voir si c'était marqué quelque part. Et là, je dois dire, c'est par exemple un cas d'erreur de partition, c'est-à-dire que ça, c'est pas marqué.
Ah oui.
Ça veut dire peut-être que c'était pas si important que ça.
Mm-hmm. C'est juste pour essayer de comprendre comment ce document est. D'où. C'est donné à qui et puis à qui.
Voilà,
et à
alors. Mais par contre, sur le document, il y a grand A, grand B, grand C, grand D, grand E.
Oui.
Et ça, c'est les segments. Et à l'intérieur de ces segments, ça ne change pas. Et en fait, c'est l'ordre des segments A, B, C, D, E qui va changer à chaque représentation. Ça, je m'en rappelle, par contre. Ça ne va pas être ce qu'il y a à l'intérieur de ces segments-là. Parce que sinon, l'interprète, il devient dingue.
Oui, ok.
Oui.
parce que le score que moi j'ai vu, ça commence avec F, je crois. Donc là, c'est
voilà.
C'est
une solution en commençant avec F. Ouais. Mais je pense que je choisissais un ordre à chaque fois qu'on allait dans un lieu. Mais que s'il y avait par exemple plusieurs représentations dans ce lieu, l'ordre ne changeait pas. Voilà. Mm. En fait, je pense que ça se passait comme ça exactement. Mm. Ouais, il me semble.
Et le score, ce document est utilisé au CERN parce que. Comment est-ce que ce score est utilisé sur scène? Jérôme n'a pas.
Ah non, Jérôme a mémorisé.
Ah oui?
Jérôme a tout mémorisé.
Ah oh, ok.
Ah oui, non, il est formidable.
Il est c'est
absolument formidable. Non, pas en trois jours.
Okay, bien.
En fait, là, c'est une fois que j'ai eu fait la partition, ce qui m'a pris beaucoup de temps, on a ensuite répété pendant un mois au moins. Hein. Un mois et demi.
Oui.
Oui.
Ah, ok, ça
oui.
Donc les trois jours, c'était pour faire ce que.
C'est juste pour la partie, voilà, c'est avant l'écriture.
Oui, ok.
Les trois jours, c'est avant l'écriture. Ensuite, il y a la période d'écriture. Et ensuite, il y a la période quand on fixe dans le corps, voilà, incorporer la partition.
Oui.
Oui, non, non, pas en trois jours. Non, non, impossible.
Oh oui, okay.
Non, non, impossible.
Ça va.
Non, et puis de plus en plus, je trouve que c'est bien de répéter et de vraiment avoir ce temps d'incorporation d'une partition, d'aller dans la finesse de la notion partitionnelle, de pouvoir ruminer, mastiquer les choses. C'est essentiel.
Oui. Et tout était, à la fin, tout était fixe ou juste les positions de.
Oui, les passages sont libres. C'est juste les, par exemple, sur pour Glossolalie, dans le physique, c'est des postures dans le physique, dans le formel, c'est des postures. Et en fait, les passages de l'une à l'autre, ou tous les passages d'ailleurs, sont à interpréter. Mmh. Oui. C'est marrant parce que ça, c'est des. En fait, j'ai eu toute une période qui n'est pas finie, hein, mais qui est juste un axe de travail où l'écriture, du coup, comme maintenant elle est symbolisée, permet de capter, enfin, permet de lire une notion juste avec un petit symbole. Et du coup, j'ai pu générer des partitions en temps réel, c'est-à-dire que je les écris sur scène, je les envoie via un ordinateur. Ça s'affiche ensuite sur des écrans et les danseuses les lisent et les interprètent.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment été un gros travail, parfois avec des dispositifs de captation. Et puis là, dernièrement, je reprends une autre branche de mon travail qui ressemble beaucoup plus à Glossolalie, où il s'agit effectivement de. Donc là, c'est plus des postures, c'est uniquement essayer de fixer du passage, c'est-à-dire de. Par rapport à une partition ouverte, comment l'interprète va fixer donc sa partition à un moment donné. Et puis si on la reprend dans un an, comment il va à nouveau la refixer, peut-être un peu différemment.
Voilà.
Et c'est cet écart d'interprétation qui m'intéresse de plus en plus, et de voir, même s'il y a de l'écart dans l'interprétation, et même si à chaque fois on refixe la partition d'une façon différente, qu'est-ce qui fait que c'est la même pièce et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, non, ça ne serait pas possible parce que sinon, ça ne sera pas la même pièce.
Oui.
Voilà, en fait, c'est cette exploration-là aujourd'hui qui m'intéresse.
Oui, ça
serait
intéressant.
Ouais. C'est vraiment un gros questionnement. Qu'est-ce qui fait que c'est le même objet? Jusqu'où va l'écart d'interprétation? Et pourquoi tout d'un coup on dirait ah ben non, pas ça?
Voilà. Oui.
C'est.
Il y a plusieurs gens qui ont parlé de ça.
De ça?
Oui.
Ouais, je pense qu'on est dans ce genre de questionnement. Enfin, je sens, c'est dans l'air. Ouais.
Ah oui, peut-être maintenant, mais dans l'entretien avec Jonathan Gross, il a parlé de ça en 2005.
Ah, super.
Qu'il est intéressé de re-aller à une de ses pièces.
Oui.
Parce qu'il croit que à la fin, il a oublié le mouvement. Donc il peut relire le score.
Oui.
Donc la mémoire
du corporel
est Oui, donc il peut faire de nouveau une interprétation.
Absolument. Oui. Une autre interprétation. Ah bah,
une autre ou...
Absolument.
Il y a quelque chose qui est nouveau.
Il y a quelque chose qui est nouveau. C'est ça,
pas,
c'est vrai.
C'est pas juste le corps.
Absolument. Ça, c'est vraiment, c'est ce que vraiment permet une partition, ça, c'est sûr. Hein.
Ouais.
C'est une réinterprétation, toujours, de cette partition. Et en fait, mais l'idée, là, c'est aussi comment régénérer, je dirais, même la partition elle-même, et savoir que même si on régénère sa structure, c'est quand même la même pièce.
Oui.
C'est, même si, par exemple, j'ai 10 danseurs et que je les place complètement à un autre endroit, ils vont avoir une place différente dans le groupe, mais ça reste quand même la même pièce.
Oui.
Ça, c'est...
Ça a été ?
Oui. Très bien.
Oui, très bien.
Non, c'est vrai que c'est vraiment ce que permet la partition, c'est tous ces questionnements-là.
Mm-hmm.
C'est vraiment une ouverture. C'est...
Oui. je reviens. Je peux plus dire ce que j'ai. Je peux plus le lire. Ah oui, donc glossolalie, une chose qu'elle a permis, c'est la suite avec la captation sur scène et ce que vous pouvez faire de score sur scène.
Finalement, si on suit le développement avec le travail avec l'informatique,
oui.
C'est le développement de glossolalie, c'est ensuite effectivement tout le travail de génération de partitions en temps réel, sur scène, avec parfois soit la partition qui est générée par le système de captation qui est sur les danseuses, donc qui est finalement est réarrangé et réorganisé par les danseurs eux-mêmes, soit la production de vraiment d'une partition en temps réel, selon quand même des possibles, parce qu'il y a beaucoup de préécriture, par je suis sur scène et puis donc je vais en fonction de ce qui se passe faire des choix et écrire des choses et les envoyer. Voilà.
Oui. Donc la capacité de lire.
De lire, oui. Alors ça par contre, c'est pour les danseuses, oui.
Vous avez commandé, c'est fait. D'accord.
Alors, le truc, c'est que la capacité de lire, effectivement, elle est importante, mais elle est assez facile, dans le sens où à chaque fois que j'ai travaillé avec des nouvelles personnes, il leur faut vraiment 3 jours pour comprendre vraiment le système. Je fais un lexique. Donc pour comprendre comment, effectivement, la grammaire, le système, quels sont les mots et tout ça. Et ensuite, à peu près 3 semaines pour réellement que l'écriture soit incorporée sans qu'il y ait lecture, et puis après je danse. Et
ouais.
Hop, ok, c'est une information qui passe par là, mais d'une façon très organique, donc je sais directement ce que je dois faire dans le corps. Donc ça, après, c'est un apprentissage, mais
ouais.
Ça va vite.
Okay.
De toute façon, pour tout système, ça m'a fait la même chose pour l'avant, tout système, je pense qu'il est beaucoup plus facile d'apprendre à lire qu'ensuite d'apprendre à écrire ou alors apprendre à noter. Je pense que le plus simple, c'est toujours d'apprendre à lire. Après, écrire pour soi-même de façon créative et puis après, vraiment noter quelque chose qui a déjà été produit. Là, ça demande beaucoup d'analyse, beaucoup de finesse et c'est le plus complexe, certainement.
Et donc ça c'est une suite et l'autre c'est là j'ai pas bien compris je crois l'autre trajet qui est
alors l'autre trajet c'est aussi que la partition puisse être mémorisée bien que ça soit une partition ouverte elle est mémorisée par les interprètes et en fait Je dirais qu'aujourd'hui, la différence, c'est que la partition est plus ouverte que celle de Glossolalie. En fait, l'ouverture de la partition est plus composée. Voilà. La composition réside sur le fait de composer cette ouverture, comme si on ouvrait des angles et on les fermait. Et donc, une fois que cette ouverture de la partition est réglée, ou contrat, ça dépend, ça va motiver une interprétation, et cette interprétation va être fixée dans un premier temps et mémorisée par l'interprète. Donc il y a aussi un travail de mémoire, finalement, auquel je reviens. Et alors, un entre deux, c'est peut-être Bestiole, une des dernières pièces, qui joue des deux, c'est-à-dire que j'envoie en temps réel, mais les informations qui sont envoyées en temps réel sont quand même mémorisées par les interprètes. Quand elles envoient d'autres, elles réorganisent la phrase mémorisée en insufflant les nouvelles données à l'intérieur de la phrase qui a été déjà mémorisée. Comme ça, elles ont un plus gros paquet. Puis elles vont quelque part dans l'espace avec leur gros paquet, elles lisent une nouvelle chose, et puis elles insufflent du nouveau matériel en l'organisant dans le temps comme elles veulent. Donc là, on joue sur les deux paramètres, en fait. C'est peut-être le thé,
oui, c'est...
ou l'eau,
oui.
Ou comme ça.
Dans le livre, c'est de Kill the King.
Ah, Kill the King.
Oui, ça c'est un exemple de votre système.
Oui,
tout à fait.
C'est dans quel livre? Ah oui, c'est dans l'Attitude.
Vous l'avez vu?
Oui, je l'ai. Okay. Je l'ai à la maison en plus. Je me rappelais plus que j'avais mis Kill the King.
Ok, c'est marrant. Ouais. Donc les exemples qui sont sur votre site, c'est aussi le...
Oui, absolument.
Oui.
Oui, c'est ça, c'est Kill the King, ouais. Oui. C'est marrant, ouais. Parce que je l'ai redansé à Berlin cet hiver. C'est marrant.
Et ça, c'est le...
Ça, c'est quoi, ça?
Ça a à faire avec
Glossolalie, hein, c'est ça.
Et ce qui est noté ici, c'est...
C'est des grilles de composition.
Oui.
Oui, ça c'est vraiment la cuisine interne, quoi. Je ne saurais même pas ce que ça veut dire aujourd'hui.
Ouais.
Si, c'est ça. Ouais, ça concerne les déplacements dans l'espace, à calculer, à évaluer, j'imagine.
Tirage aléatoire réalisé dans le logiciel Patchwork.
Ouais, c'est ça.
Des instructions destinées à Girombelle.
Voilà, c'est ça.
Moi
non plus.
Oui, c'est un peu compliqué.
Oui, enfin, c'est juste des évaluations dans l'espace, hein, par rapport à des points. Si on fait plus un, j'imagine que c'est juste le point suivant. Si on fait plus deux, c'est dans deux points. Donc je sais que j'ai ce déplacement-là à faire.
Oui.
C'est tout simple, hein. C'est pas...
Ah, ce que j'ai lu aussi sur c'était un article, je crois, sur la page de Glossolalie, que une de votre désir était de comme comme il y a possible une dans la musique, il est possible de faire une pensée musique, une composition
sans produire le son.
Oui, et ça, je trouve très intéressant.
Ah oui, ça c'est vraiment... Parce que ça, je trouve que c'est... Je pense que quand on se retrouve seul, la façon de... Dans l'écriture même, il y a de la créativité. Il y a de la notion qu'on vient renifler intuitivement. Et que l'écriture, elle est porteuse de ça, en fait. Et que c'est vraiment vécu très intérieurement par le système de la perception, qui est comme avec le mental qui vient justement renifler un petit peu, une sorte d'intuition. Mais des fois, il m'arrive d'écrire des choses, je ne sais même pas si c'est juste, hein, je les écris quand même en labant. Et je m'en fous d'ailleurs que ce soit juste ou pas, parce que c'est juste derrière, il y a une intuition.
Oui.
Et ça, en fait, je trouve que c'est vraiment l'essence même de la créativité, et ça serait l'essence même d'une danse qu'on invente. Voilà.
Oui. Et si vous dites juste... Oh, oui, c'est quoi le paramètre de dire que c'est juste que c'est possible ou que c'est noté d'une façon
Non, c'est juste que c'est pas noté d'une façon qui doit être bien notée.
Enfin, ah, ok.
Oui. Mais oui. C'est possible en général.
Oui, oui.
En général, okay. C'est vraiment possible. Mais oui, je trouve que c'est vraiment des moments d'inventivité qui arrivent quand on écrit. Qui donnent toujours vraiment le principe de la danse. Et que finalement aussi, quand on lit, ça c'est très important, qu'on a cette capacité de pouvoir lire une partition, on voit tout de suite le style de quelqu'un. Surtout si c'est bien noté, par exemple. Mais comme quand on lit un livre, parce qu'effectivement, on a cette capacité de sentir, de lire et sentir en même temps. Ça fait une même chose. Donc, par l'appareil perceptif, la lecture nous donne vraiment un monde virtuel à venir ressentir. Virtuel dans le sens de virtus vivant,
oui.
À venir vraiment ressentir. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionnée dans l'écriture musicale, de pouvoir être tellement invitée dans l'intimité d'un auteur alors que je ne connaissais pas la personne, peut-être qu'il, enfin même des fois la personne est morte, mais que la partition, elle invite toujours au plus proche de l'intimité de la personne et de la façon dont fonctionne sa perception et son organisation mentale. Et c'est la même chose finalement en chorégraphie, si on a la chance de pouvoir lire une partition de Cunningham et mettre à côté, ce qui m'est arrivé dernièrement, une partition d'Yvonne Rainer, c'est évident qu'on est dans deux univers mentaux complètement différents. Et ça se voit, mais juste en posant les partitions à plat. C'est simple. Et effectivement, on peut tout de suite voir le rapport très clair à l'espace de Cunningham, alors, qui est vraiment avec cette notion, toujours en référence à la, finalement, on pourrait dire, c'est la traduction qu'on a fait en tout cas Noël Simonet, je trouvais que c'était assez juste. C'est son rapport, le rapport qu'il entretient, c'est toujours le corps est référent. Ce qui fait que comme il est dans ce qu'on appelle la croix d'axe corporelle, souvent, où le corps est référent, c'est-à-dire que le haut reste le haut, quoi qu'il fasse, et du coup il donne à voir l'espace. Donc il trace souvent. Enfin, l'espace est en premier lieu. Alors que si on lit une partition d'Yvonne Rainer, tout de suite, on va voir qu'elle joue avec un maximum d'éléments possibles. Et ça se voit au niveau de la partition, qu'elle emprunte des mouvements à la gymnastique, qu'elle emprunte des mouvements à la danse classique, qu'elle emprunte des mouvements, etc. À la natation synchronisée. Enfin, tout ça va se lire tout de suite parce que on a un style tout d'un coup qui n'a rien à voir avec le bloc d'à côté et qui n'a encore rien à voir avec le bloc qui est au-dessus. Et du coup, on voit la façon dont elle diversifie finalement sa composition, elle emprunte son mouvement à vraiment des champs complètement différents. Et c'est super agréable parce que du coup, la partition est toujours le reflet de son auteur. Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant, en fait, de voir à quel point c'est le reflet intime de notre façon de penser, en fait. C'est... Bon, ouais, c'est...
Et encore sur Glossolalie, est-ce que vous pouvez me raconter quelque chose de ce qu'on a parlé avant, comment c'était de travailler avec Jérôme Bell c'est quoi de découvrir le corps ou qu'est-ce qui était là de...
En fait, c'était enfin, vraiment un grand travail en yoga qu'on a fait. Donc on a fait ces 3 jours, mais après on a travaillé au moins 1 mois et demi. Donc avec du yoga tous les matins pour mettre la respiration en place, pour assouplir le corps aussi, pour comprendre le travail des appuis et le travail mélangé des appuis et du souffle qui donne cet espace de ralentissement où on va mesurer l'espace et le temps vraiment par la perception. Enfin, tout ça, c'est un apprentissage, je dirais, qui s'est fait avec Jérôme. Et c'est vrai que le travail que je développe est vraiment, finalement, propose un corps, propose un état de corps. Mm-hmm. C'est très clair. Donc, il faut l'apprendre, il faut le vivre, je dirais. Il faut l'avoir traversé pour vraiment le comprendre. Mm-hmm. Donc, ça se fait par un apprentissage.
Oui.
Voilà. Donc par contre, c'est vrai que Jérôme a super interprète, quoi. On voulait vraiment se mettre dans le rôle de l'interprète et à fond, quoi, jusqu'au bout. Et génial.
Et c'est venu d'où, cette collaboration ?
En fait, cette collaboration, c'est venu du fait que Jérôme a vu Berengelight, qui est une pièce pour 4 personnes, qui est autant un concert qu'une pièce de danse. Et lorsqu'il a senti cette danse, il a voulu tout simplement la vivre. Et puis du coup, il m'a proposé de lui écrire un solo. En fait, c'est né comme ça. Voilà. Vraiment une rencontre qu'il a fait un soir de spectacle. Et après, il m'a plus lâché.
Okay.
Non, c'était super sympa. Vraiment. Ouais. Très ouvert, en tout cas, comme... Je crois qu'il est complètement tombé dedans, en fait. Il a senti tout de suite cet état de corps. Il est très poreux, c'est clair. Et du coup, son désir de le vivre était très fort. Donc, il s'est donné les moyens et il s'est rendu disponible. Donc, ça, c'est super, quoi.
Ouais.
Je le remercie tous les jours.
Donc, très bien. Parce que ce que je connais du travail, des travaux de Jérôme, c'est tout à fait différent.
Ah, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir.
Ouais.
C'est ça qui est génial aussi, et c'est pour ça que le fait de clarifier que son rôle était interprète, comme le fait dans son travail de clarifier quand on est auteur et quand on est interprète, tout ça est très important chez Jérôme. Et c'est vraiment toute cette clarification en fait qu'il a amené beaucoup dans le monde de la danse française. Je pense que c'est très bien, en fait, de vraiment clarifier quand on est auteur, quand on est metteur en scène, quand on est chorégraphe, quand on est interprète. Enfin, tout ça, effectivement, c'est peut-être les facettes d'une même chose, mais c'est bien de pouvoir le discerner, c'est-à-dire que, aussi, lorsque je chorégraphie, par rapport à mon propre rôle, c'est bien de savoir quand je suis créateur et chorégraphe et quand je suis répétiteur, par exemple.
Mm-hmm.
Et quand je suis interprète.
Oui.
C'est 2 choses différentes. Et quand, effectivement, je suis petite businesswoman qui vend son spectacle, c'est pas du tout pareil.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'effectivement, on est amené à avoir plusieurs rôles. C'est important de les discerner, tout simplement.
Oui. Et de garantir...
Parce que le travail de répétition, c'est pas le travail de chorégraphe.
Oui.
C'est vraiment le travail du répétiteur. Il se trouve que la plupart du temps, c'est le chorégraphe qui le fait. Mais du coup, je trouve que le travail partitionnel aide à clarifier le moment où je chorégraphie et où je répète. Voilà, ça par exemple, c'est devenu très, très clair. Et c'est vrai que autant quand je suis toute seule, créateur, chorégraphe, je suis face à ma partition et là, bon, bah, tout est permis. Autant quand je suis dans le rôle du répétiteur, je suis au service de l'interprète et non pas le contraire. Mais ça, c'est, enfin, tout ça aussi, la partition permet de clarifier le rôle.
Oui. Voilà.
C'est-à-dire que je vais aider l'interprète à comprendre.
Oui. Mais là, vous faites, vous dites quelque chose de...
d'évident.
Non.
Non.
Non, mais les rôles que
je décide. Oui.
Donc.
Décrivez.
Encore une fois. Ce sont des rôles dans une travaux ou c'est.
Non, en général. Je trouve que c'est en général dans mon travail chorégraphique, c'est ce que je perçois de la partition de mes différents rôles. C'est-à-dire que mon temps est partagé entre être chorégraphe souvent et être répétiteur. Et que
vous
c'est...
êtes répétiteur dans votre. Ah oui, c'est
dans
ça.
Mon propre travail.
Donc la partition.
La partie de travailler avec les interprètes, j'appelle ça être répétiteur.
Oui, ça va.
La partie où je suis seule à la table en train de créer avec ma partition. J'appelle ça être chorégraphe.
Ok.
C'est deux choses différentes.
Oui, maintenant je comprends. Et la partition fait que ça soit possible.
Et la partition fait que c'est clair.
Oui.
Que c'est clair. Que je ne vais pas mélanger les choses. C'est-à-dire que effectivement c'est les facettes d'une même chose et que il est très important de faire les deux choses. Ça c'est clair et de les faire bien.
Oui.
Mais que quand je suis du coup répétiteur, c'est clair que je suis là aussi pour remettre en question ce que le chorégraphe a écrit, c'est-à-dire savoir s'il l'a bien écrit, quelque part. Et je suis au service des interprètes, c'est-à-dire que je les aide à comprendre.
Mm-hmm.
Et donc que je mets en place une transmission qui va faire que ça soit facile à comprendre. J'essaye de bien faire aussi mon job de répétiteur.
Ouais.
Voilà. Parce que c'est plus un job, alors que chorégraphe, bon, c'est autre chose.
Ouais.
Mais cette partition permet d'avoir compris, je pense, de mettre les choses à distance comme ça, et de se dire, bah oui, mais là, je suis vraiment au service de la partition et des interprètes. Si on répète, pendant les répétitions, c'est effectivement, j'ai ce rôle de répétiteur qui fait lien entre chorégraphe et interprète. Je suis médiateur. Du coup, au niveau de l'ambiance de travail, depuis que je travaille avec les partitions, ça se ressent aussi.
Mm-hmm.
Alors, je trouve que c'est très différent.
Mm-hmm.
Du coup, il y a quelque chose de très positif, en fait, dans l'ambiance de travail, très harmonieux, je trouve. Parce que tout le monde se sent libre, je pense, de réagir face à l'objet partitionnel qui est en fait une chose que l'on pose et
qui est là
et tout le monde se met au service de cette chose qui est posée et qu'on essaye de faire vivre. Voilà, donc c'est...
Ouais.
Je trouve que contrairement à une tradition orale où forcément on va dire des choses, on est moins enclin à les dire de façon frontale et directe à l'autre. Et du coup, comme il y a médiation, ça va faciliter la communication. C'est énorme. C'est énorme.
Oui.
Oui, c'est clair. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Et en plus, du coup, la partition force à développer des stratégies en tant que répétiteur. Aussi à analyser les comportements. Voilà. Donc, du coup, à développer des stratégies. Et ce développement, finalement, c'est pour ça que je ne voudrais pas non plus ne pas faire travail de répétiteur. Parce que le développement de toutes ces stratégies se fait par l'analyse et va nourrir aussi le travail du chorégraphe, hein, c'est évident.
Ouais.
Donc, être à tous les. Enfin, c'est vachement intéressant, justement, de pouvoir rester très proche, en tout cas pour l'instant, très proche de comment cette partition va vivre, c'est sûr.
Mm-hmm. Mm-hmm. Avant, vous avez fait vous avez utilisé le mot task.
Task.
Est-ce qu'il y a une différence entre task ou
énorme. C'est énorme, la différence. à mon avis.
Oui.
Peut-être pas avec le mot score, mais avec le mot partition, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la task, elle va donner une information qui est en général assez générique, assez globale, par rapport à ce qu'une partition, le mot partition en français, ça veut dire vraiment partager les choses, les discerner, peut donner. Donc, à mon sens, on peut parler de partition, c'est mon avis, lorsqu'on va vraiment à l'atome des choses, c'est-à-dire que lorsque la plus petite notion peut être couverte, et que c'est l'agglomérat ou la combinaison de ces très précises notions qui peuvent être travaillées, qui peuvent être mises en œuvre. Sinon, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la task, donc une sorte d'indication, et on est, à mon avis, dans des dispositifs d'improvisation, même si c'est écrit. Et à mon sens, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que l'exemple, je peux le reprendre, l'exemple des facteurs de mouvement. Si on parle du poids, si on parle du flux, si on parle de l'espace et si on parle du temps, avec dans l'effort chez Laban, on a un certain nombre de facteurs de mouvement avec lesquels on va travailler, on va combiner les choses. Mais on ne va pas travailler avec une notion vague. Ça ne va pas être de l'ordre là, on circule dans l'espace. Non, on va tout de suite parler de comment est le poids.
Oui.
Quelle évaluation on va donner au poids, précise. Donc, on est aussi dans une évaluation possible des choses. Alors, l'évaluation, à mon sens, c'est ce qui structure aussi. Et sans évaluation, si on refuse l'évaluation, en se disant toujours, bah non, il suffit d'être un peu flou, quoi. Le flou, c'est important aussi, mais la partition permet d'être flou, c'est ça qui est génial, mais elle permet aussi l'évaluation. C'est-à-dire qu'elle permet, personnellement, je situe dans le corps la capacité d'évaluer les choses au niveau du sexe, au niveau de l'énergie sexuelle. C'est-à-dire au niveau de ce qui, en tant qu'homme, nous fait dire « j'aime, j'aime pas ». J'aime, j'aime pas. Donc, une façon de pouvoir structurer ses préférences personnelles. C'est hyper important. Et c'est ce que permet la partition. C'est d'aller vraiment regarder ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Vraiment. Pas, oui, il n'y a qu'à faire ça. Non. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Quelle évaluation ? Voilà, c'est vraiment beaucoup plus rigoureux, je dirais, une partition. Bon, c'est vraiment la façon dont je le vois. Et d'autre part, après, si vraiment on remonte dans les choses, cette structuration de ce qui peut être... Alors, ce qui est d'ordre du flou est très important, parce que c'est ce qui est d'ordre instinctif. C'est oui, j'ai intuitivement la tasse qu'elle marche là-dedans. C'est-à-dire que j'ai intuitivement envie d'aller par là. C'est hyper important. C'est la base de tout. Donc, il faut aussi la task. Enfin, c'est vraiment super, quoi. Donc, dans la partition, c'est important aussi de pouvoir avoir cet ambitus de flou, quand même. Ce que permet la SMD, ce qu'on a vu tout à l'heure, la symbolisation du mouvement dansé.
Oui.
Ça, c'est génial, parce qu'il fallait vraiment que la notation Laban puisse aussi avoir cette ouverture. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'amènent les années 60 en danse. Et c'est, si on n'avait pas ça, c'est comme si on n'avait pas nos pieds, quoi. Donc, c'est embêtant.
Ouais.
Donc ça, c'est super important. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi très important de voir qu'on peut aller à un degré plus haut, c'est-à-dire vraiment dans la structuration, au niveau d'un espace plus partitionnel où on va évaluer les choses. Et puis enfin, ce que permet la partition et ce qui est hyper important, c'est de voir globalement les choses. Même si à l'intérieur il y a du très précis, même si à l'intérieur il y a de l'intuition, ça nous donne un ensemble de choses, une vision. Voilà, une vision. Et cette vision, je dirais qu'elle est le reflet de notre engagement. En fait, c'est la superstructure de ce petit système-là, pour cette pièce-là. Elle nous donne une vision, elle nous informe au niveau de l'auteur de comment il s'est engagé là. Mm-hmm. Comment il s'est engagé par rapport au public, par rapport à l'univers sensible, comment il s'est engagé. Voilà. Donc ça, je pense que aussi, alors, du coup, plus à un niveau presque politique, la partition, elle affirme une vision, elle affirme une chose. Mm-hmm. Et elle affirme une chose non pas sur une task, ou deux ou trois, mais sur un ensemble peut-être de choses intuitives qu'on pourrait appeler task, et un ensemble d'évaluations très précises, plus ou moins précisées, et une superstructure.
Ouais.
C'est énorme.
Ouais.
Et comme ça, on remonte pratiquement tout ce qui est structurant pour une personne. Je pense que c'est important, du coup, la partition.
Mm-hmm. Et au niveau du j'aime ou j'aime pas, est-ce que vous pouvez donner un exemple?
Oh oui.
Juste pour savoir.
Bah, par exemple,
si c'est concrète ou...
Oui, oui, par exemple, en fait, admettons avec le logiciel LOL, toutes les postures que le logiciel me proposait avec une rotation externe des deux bras, admettons, et le sternum vers le haut, avec un nouveau haut, j'aime pas. Pourquoi? On s'en fout, j'aime pas.
Ok.
J'assume, j'aime pas ça. Ça, je veux pas le voir. Parce que aussi, si effectivement il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion de vie dans une chorégraphie, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut assumer au niveau de la beauté aussi, ou du trash, hein. Alors peu importe ce qu'on met derrière la beauté. Après, ça peut être que on aime le truc un peu crade, un peu sali et tout ça, mais en tout cas de l'ordre de l'esthétique qui fait qu'à un moment donné, je suis une personne et bah, ça, j'aime pas. J'ai pas besoin de l'expliquer. Mm-hmm. C'est ma préférence personnelle, c'est mon goût. Et c'est comme ça, alors ça peut changer par contre, évidemment. Hein. Parce qu'on évolue, plus ça va. Enfin, au début, peut-être, j'aime pas les épinards. Et puis bon, au bout de 25 ans, les épinards, ça rentre aussi dans ma façon de manger. Même maintenant, j'adore ça. Je mets du curry dedans, je m'amuse avec. Voilà, enfin, mm-hmm. c'est exactement pareil. En fait, c'est la palette de goût qui fait qu'on est nous. On est nous, on va aimer cette odeur. Et puis alors ça change évidemment. Surtout en tant que femme, on va changer de parfum pratiquement tous les 2-3 ans. Voilà. Alors qu'un homme, il va avoir le même parfum pendant 10 ans. Enfin, je sais pas, je dis ça parce que je le vis. Mais alors, voilà, il y a tout ça en fait qui va faire qu'on est... On va changer de coiffure à un moment donné. Je sais pas, parce qu'on aime, on a envie tout d'un coup. J'ai envie d'avoir les cheveux longs. Avant, je les avais rasés. J'ai envie, je réfléchis même pas, je le fais. Voilà, c'est vraiment de l'ordre de la de j'aime pas, c'est constitutif de ce que je suis.
Mm-hmm. Et c'est pour ça que vous le nommez sexuel, parce qu'il n'y a pas une explication ou ça,
ah,
ça
parce
aussi,
que c'est
parce que c'est fort ou...
parce que c'est fort, parce que c'est de l'ordre de je prends pas, c'est de l'ordre de vraiment, je me situe là, je ne sais pas pourquoi hein, je dis ça, mais ça fait longtemps que je me situe là. Parce que c'est pas vraiment un instinct, mais c'est quelque chose que j'évalue tout le temps et qui est le lieu, enfin j'espère, en tout cas je travaille dans ce sens-là, ce qui est le lieu d'évaluation qui change. Bah, y a du jugement quelque part. Mm-hmm. Mais en fait... Ce qui est important de voir, c'est quand ces jugements sont nécessaires pour que je me construise et que je tienne debout, c'est mes forces d'ancrage quelque part. Mmh. Et quand ces jugements sont obsolètes, eh ben je les vire et j'en ai d'autres qui arrivent. Et en fait, cette espèce de chose du cycle, en fait, de la vie, je donne naissance finalement à des préférences, à des goûts. Je donne naissance à des goûts. C'est pour ça que je le situe là, parce que c'est... Mmh. C'est vraiment le lieu de la créativité, le goût. Je sais pas comment Enfin, c'est très intuitif encore. Hein. J'ai pas encore vraiment. Enfin, j'aimerais bien discuter avec quelqu'un de plus philosophe, du coup, qui mettrait des mots dessus. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai fait une pièce qui s'appelait Rare, cru. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je fais une pièce qui s'appelle Une lente mastication. et auquel je relie plutôt à, au fait de cuire. Mm-hmm. Donc, entre le cru d'il y a 8 ans et le cuit d'aujourd'hui, il y a un grand écart. Mais oui. Le goût a changé, c'est évident. C'est bizarre.
Oui.
Mais c'est cette... je pense que c'est ça qui est évalué au niveau sexuel, en fait, comme... c'est très finalement aussi nos goûts par rapport à un homme, c'est un peu comme ça que ça marche aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va tout d'un coup sortir avec un blond et puis on pourra aussi sortir avec un brun finalement. Mais c'est une histoire de goût qui change. Qui... Bon, c'est vrai qu'au début, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'adorais les blonds. Et pourtant aujourd'hui, je suis avec un brun, mais vraiment brun. Et. C'est bizarre, il y a vraiment un goût qui a changé.
Oui.
Ça, c'est une histoire de goût. C'est pour ça que je dis sexuel, parce que c'est vraiment, tout ça, c'est relié. Mm-hmm. La nourriture, l'homme qu'on aime, je trouve que c'est...
Oui, maintenant, on arrive à ce point qu'on a parlé aussi dehors. Comment c'est maintenant de regarder à ce travail de...
De glossolalie.
Oui. Est-ce qu'il y a...
Oh non, non. Alors, il y a un truc, en fait, qui me fait sourire. C'est la méthodologie pour se protéger à l'intérieur, en fait. Il y a beaucoup de choses de l'ordre des grilles, de l'emploi. J'avais besoin de passer par ce genre de structuration. L'emploi de grilles, l'emploi d'opérations mathématiques dans un logiciel, l'emploi rigoureux, le fait de déchiffrer de façon rigoureuse toutes les combinaisons possibles. Tout ce travail, en fait, qu'aujourd'hui je qualifierais un peu de laborieux, c'est dans le négatif, je dirais, qui à mon avis, était de l'ordre de la protection pour se rassurer. Mais en même temps, dont j'avais besoin comme une béquille pour ma structuration. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu, moi en tant que moi, personne, Myriam Gourfink, ne pas passer par là. Mais en même temps que je regarde aujourd'hui en me disant oui, mais ça c'était... Franchement, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment de l'ordre de la protection, effectivement. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont là pour... Oui, comme des béquilles, voilà, pour se rassurer, parce qu'on ne connaît pas encore ses préférences, parce qu'on ne connaît pas encore ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Parce que, du coup, il faut rentrer dans quelque chose aussi de rationnel pour se rassurer. Parce qu'on commence le yoga et on se dit « Ah, j'ai pas envie d'être aussi rangée dans la partie des mystiques folle dingue, ce que je deviendrai jamais, donc maintenant je suis complètement rassurée, je suis beaucoup trop concrète pour ça ». Mais du coup, c'est aussi de se rassurer par rapport à toutes ces méthodes pour ne pas tomber dedans. Et je dirais que c'était une façon, finalement, de les apprivoiser. C'était une bonne façon, finalement, aussi d'être exigeante par rapport à un enseignement qui m'était donné, par exemple, à l'école française de yoga, de ne pas aller vers n'importe qui et de faire le tri par rapport à ce qui m'était enseigné. Donc, finalement, c'était une très bonne méthode. Mais aujourd'hui, je me passe de cette béquille, en gros. Voilà.
De béquille.
C'est-à-dire que je n'aurais pas forcément recours à des logiciels pour composer.
Ah, oui.
Je n'aurais pas forcément recours à des modes opératoires ou à des modes scientifiques et rationnels. Possible, mais pas que. Voilà.
Oui.
Parce que aussi, je trouve qu'il y a un côté un peu sec dans la façon de procéder. Et que ce qui m'a intéressée, je dirais, c'est que dans le processus de travail, essayer de rester dans quelque chose d'assez humide, assez humide. Je sais pas comment le dire autrement.
Ok. Et là, ça fait partie du travail avec Jérôme Bell maintenant.
Ça c'est complètement différent, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est juste une aparté qu'on se permet tous les deux, qui n'est pas du tout encore fini, pas du tout encore produit, et qui est juste de l'ordre de l'exploration.
Mm-hmm.
Donc effectivement d'y aller. Alors là du coup je suis interprète pour lui, donc c'est encore différent.
Mm-hmm.
Voilà.
Ouais. Ok. On a fait le tour.
On a fait le tour. Donc du coup, peut-être il nous reste à lire les partitions, c'est ça?
Oui.
Il y a des choses comme ça.
Oui, on peut.
On peut. Enfin, je sais plus, hein, le programme, je ne me rappelle plus exactement.
Oui, je suis venue pour faire des audio comments, plutôt courts, mais j'aime tellement comment vous avez expliqué. Peut-être c'est aussi
un audio comment, très long.
Oui, c'est peut-être comme ça que
peut-être.
C'est une longue... Non, mais c'est très clair.
Merci.
Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de...
Non, je pense pas. Non, honnêtement, je pense pas. Enfin, comme ça, je dirais non. Enfin, c'est vrai que là, on a fait quand même pas mal le lien entre les fondements, glossolalie, aujourd'hui, comment je vois les choses. Donc, ça a brassé un peu tout, j'ai l'impression.
Oui.
Ouais, je vois pas. Comme ça, je vois pas, en fait. Parce qu'on a, c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de faire des... C'est des retours entre le tout petit puis le global, donc
oui.
Je pense que ça, hein, c'est assez bien.
Oui.
Parce que je suis satisfaite.
On peut regarder sur le website aussi ce qu'il y a déjà.
Oui.
Mais ce que j'ai mis là, c'est... Oui, j'ai regardé sur les autres sites pour faire le pool de matériaux. Mais oui, c'est aussi une recherche qui est très vite pour faire. Il y a un très, vous avez documenté votre travail très bien.
Oui, j'ai essayé.
Oui.
Là, il faut que je réinsuffle et que je travaille un peu sur le web. Je n'ai pas eu de temps.
Pour la dernière.
Ouais, parce qu'il y a eu, Mouvement en fait, qui est sorti.
Oui.
Et dans le dernier Mouvement, il y a un cahier spécial sur le travail, avec tout traduit en anglais. Et du coup, je voudrais copier en anglais pour mettre sur le website, de façon à réactualiser un petit peu. Parce qu'ils ont fait un super boulot. Donc, c'est Mouvement, c'est le dernier Mouvement qui est vendu avec un cahier spécial sur le travail.
Okay,
et il y a beaucoup, beaucoup d'articles en anglais. Et vraiment, ils ont fait un super boulot, quoi. Mm. Je suis plus que contente. Vraiment...
Je vais le chercher. Mais donc, je crois que cet entretien le remplace aussi un peu le matériau que j'ai.
Oui. D'accord.
Donc...
Ah, bah c'est super alors.
Oui.
Donc, on a fait le tour.
Oui.
Ah, génial.
Ouais.
Super, je suis libre. Ça y est, c'est un peu les vacances.
Ça commence aujourd'hui.
Ouais. Ouais. Ça finit lundi parce qu'on répète 27, 28, 29. Donc, bah, je vous enverrai à toi, Myriam. Je vous enverrai si vous êtes sur Paris, il y a 18, 19, 20 janvier à Pompidou. Et il y a du 2 au 9 février au théâtre de Gennevilliers. Sinon, il y a Arras aussi, plus proche de la Belgique. En fait, le 14 février, je danse un solo.
Ah oui.
Donc à l'université d'Artois, ils sont sympas, c'est une université qui bouge bien, que j'adore parce que c'est vraiment accueil étudiant, donc c'est que des étudiants que j'ai au téléphone, j'adore ça. Et je fais un workshop en plus de 3 jours avec les étudiants sur Arras.
Ah oui.
Donc plus ça va, effectivement, plus je crois que la cible de mon travail, c'est vraiment le monde universitaire, parce qu'ils comprennent bien l'enjeu des partitions. Ils comprennent bien l'enjeu de corps aussi, comment je relis les choses, et avec aussi les technologies, du coup ça les intéresse. Et donc il y a pas mal de jeunes personnes qui font leur mémoire autour du travail, et plus ça va, plus je trouve que c'est intéressant de travailler dans ce milieu universitaire en Europe. Enfin, je trouve que c'est vraiment là où il y a des choses qui se passent aujourd'hui, quoi.
Mais avec universitaire, c'est une...
En fait, c'est une programmation. Oui, il y a une programmation danse à l'intérieur de l'université à Artois. Ça s'appelle la Maison des étudiants. Et ils font des programmations théâtre, danse. Donc, l'université d'Arras. Sinon, là, j'étais invitée aussi à Toulouse, où il y avait le même genre d'engagement. Donc, c'est vraiment super. Je trouve que ça déplace un peu. Enfin, il y a le lieu du théâtre que j'adore, ça, c'est évident. Mais aussi un lieu où vraiment la recherche peut s'exprimer au niveau de la recherche, je dirais, sans faire aucun compromis, mm-hmm. ça fait du bien.
Ouais.
Et c'est vraiment dans le milieu universitaire que ça peut avoir lieu.
Mm-hmm.
Donc, j'aime bien, du coup.
Ouais.
J'aime bien aussi le public, mais c'est autre chose. Enfin, j'adore même le public. Mais je suis obligée d'avoir des stratégies de transmission. Là, le travail que je vais faire au T2G à Niers-Gennevilliers. Niers-Gennevilliers, c'est une banlieue parisienne très dure, la plus défavorisée en fait de tout le nord de Paris.
Mm-hmm.
Donc c'est la croix. Et donc j'ai travaillé dans les écoles avec des ados et pour les faire venir au spectacle après. Donc je suis obligée vraiment de passer par de ruser pour trouver des moyens de transmission. Comment leur faire comprendre ça mais c'est intéressant. Mais si je faisais que ça, c'est dur, quoi. Mmh. C'est vraiment. voilà. voilà la vie d'une chorégraphe parisienne.